Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de quoi ? On va parler de Destiny, les Seigneurs du Fer, de Virginia, de Forza Horizon 3 et de Attack on Titans, Wings of Freedom. Voilà. Et puis Monsieur Fall, et puis le com des com, et puis tout ça, plein de choses intéressantes. Je commence à agiter beaucoup les bras, en fait. C'est marrant, hein. Maintenant qu'on se voit en vidéo, on remarque tous les espèces de tics. Je trouve que je parle tellement avec les bras, c'est assez horrible, il va falloir que je fasse quelque chose à ce propos. Bref, je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Joël Métro, bonjour Joël.
Bonjour.
Et Patrick Elio, bonjour.
Bonjour
Patrick.
Ouais,
on va commencer avec toi Joël, avec un jeu auquel on a joué en ce début d'année et qui pourrait avoir des suites.
Des suites au cinéma. Donc, il s'agit ici de Firewatch. Vous vous rappelez de ce jeu, la première personne, qui racontait l'histoire de ce garde forestier qui part dans le Wyoming et qu'on laisse, voilà, qu'on laisse mariner pendant tout un été. Et ce jeu qui était...
Le Walking Games, c'est joliment dit.
Ce jeu qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires, qui était un très beau jeu, notamment pour sa narration, va peut-être, sans doute, faire l'adaptation d'une adaptation au cinéma, puisque Campo Santo, le studio en fait, qui est à l'origine de la création de ce jeu, s'est associé à Good Universe, une société de production, pour créer d'autres jeux vidéo et éventuellement aussi d'autres longs métrages. Donc Good Universe, c'est une petite maison de production, mais ils ont déjà, par exemple, ils sont déjà alliés avec Seth Rogen pour faire des films, pour faire des comédies. Ils ont également acheté les droits de Rocketman, qui est le biopic de Elton John, consacré à Elton John. Donc bon, ça a l'air assez plutôt sérieux. Donc reste à voir ce que ça peut donner.
Je trouve que Firewatch, qui était, à mon avis, un bon jeu, n'est pas du tout adaptable au cinéma parce que, justement, ça détournait la position du joueur, cette communication par talkie-walkie avec la chef qui est sur un autre point d'observation. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient très intelligentes dans le cadre d'un jeu. Mais après, dans le transposer ça, c'est dangereux.
Je trouve ça très dangereux. Ouais. Moi aussi, je suis assez sceptique et je pense que la version de Tetris sera sans doute plus intéressante.
Et on a vu, donc, il y a une étude avec un résultat assez surprenant.
On est un peu triste étude qui s'intitule « Les représentations de la culture dans la population française », qu'on peut télécharger sur le site du ministère de la Culture. Ce qui est un peu dommage, c'est que le jeu vidéo dans cette étude, en fait, se trouve rabaissé. Je donne des chiffres, vous allez vous comprendre tout de suite. Selon cette étude, les Français en fait s'accordent sur l'absence de caractère culturel des émissions de télé-réalité à 83%, des jeux vidéo à 63%, juste devant les parcs d'attractions à 50%. Donc en fait, pour les pratiquants des jeux vidéo, les jeux vidéo ne relèvent pas de la culture.
Il y a quand même 37% des gens qui pensent que c'est culturel, si c'est 63% qui pensent que ça ne l'est pas. Moi, ça ne me choque pas plus que ça, parce que c'est quand même... On le sait, le jeu vidéo, c'est une industrie de loisirs. Il y a un aspect culturel. Après, quand on voit les chiffres de vente, justement, de Firewatch, dont on a parlé, ou de Virginia, dont on va parler, ou de Sunset, ou même de The Witness, enfin, qui sont les trucs avec un vrai propos, des choses, des angles un peu artistiques, ou ce genre de choses. Ce n'est pas quand même des meilleures ventes du jeu vidéo. Les parents qui voient leur fils jouer à Call of Duty va leur expliquer que le jeu vidéo, c'est de la culture. C'est un peu compliqué.
Ouais, certes, mais bon, je trouve que le chiffre est un peu triste quand même.
Bon,
voilà.
Je pense qu'on pourra, tu vas t'en remettre.
Oui, je m'en remettrai.
Patrick.
Alors moi, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise. On se débarrasse. Hein. Non. En fait, le groupe Disney qui continue à faire le ménage dans ses unités de production de jeux vidéo. Là, en fait, il vient de licencier 250 personnes dans sa branche de production de produits dérivés. En fait, c'est des gens qui travaillaient sur un jeu sur mobile qui s'appelait Marvel Avengers Alliance. Bon, voilà, donc quand même 250 personnes. Et en fait, ça s'inscrit quelques mois après l'annulation de Disney Infinity. Donc, c'était les fameuses figurines NFC, un peu dans la lignée des Amiibo, etc., qui ont été purement et simplement arrêtées du jour au lendemain. Donc, ça voulait dire, je crois qu'il y avait 300 personnes du studio Avalanche qui ont été mis à la porte. En fait, qu'est-ce qui se passe? On sent que voilà, Disney en fait, ne veut plus avoir d'unité de production de jeux vidéo en interne et confie toutes ses licences. Et on sait qu'ils ont des licences énormes, hein, les Marvel, Lucas,
Marvel, Star Wars,
Marvel, tout ça, etc. Donc les confie à des éditeurs extérieurs comme Electronic Arts pour Star Wars Battlefront, les Star Wars Lego, etc. Donc tout ça est confié à l'extérieur.
Le prochain Spider-Man là, qui a l'air marrant, c'est...
Il est chez... Mais c'est pas... Ouais, chez Sony, je crois que Spider-Man, c'est un cas un peu à part, il me semble, Spider-Man.
C'est pas impossible. Il y a toujours des problèmes de licence.
Je crois que c'est un cas un peu à part. Mais en tout cas,
même
voilà,
cinéma, c'est vrai
des décisions un petit peu étranges sur Disney Infinity, notamment, je trouve que le jeu avait pas mal évolué. C'est vrai que les premières années n'étaient pas terribles, c'était pas le meilleur jeu du tout, du genre des figurines NFC. Mais il y avait une vraie progression sur les dernières extensions Star Wars, qui étaient avec des jeux honnêtes, qui vraiment avaient eu une belle progression. Couper, arrêter du jour au lendemain, c'est un peu difficile. Donc en tout cas, a priori, toutes les grandes licences Disney partent à l'extérieur chez les studios. Donc après, ça peut avoir un impact sur notamment les jeux LucasArts qui sont chez Disney. Donc ce qui permet, c'est le paradoxe, c'est qu'on peut les retrouver davantage ces jeux-là à l'extérieur. Ouais. C'est le côté positif de ce qui se passe.
Oui, ils sont moins touchy qu'à l'époque où c'était
ils laissent partir quelques licences.
Il y a des remakes qu'on a vu avec Day of the Tentacle.
Et donc ça, c'est le bon côté. Ouais. Mais c'est un peu dommage de voir des projets comme ça annulés et surtout des gens qui se retrouvent dehors. Allez, une bonne nouvelle, c'est le carton de Soma. Vous en aviez parlé il y a quelques mois ici, de Soma, ce fameux jeu horrifique qui est dans un
espace confiné
et assez angoissant. Et en fait, le studio dans Frictional Games a annoncé qu'ils avaient passé les 450 000 ventes, ce qui est quand même un beau carton, donc en cumulant les versions PC, PS4. C'est quand même des gens qui avaient fait Amnesia, qui avaient fait Penumbra auparavant, qui étaient des jeux quand même moins, qui n'avaient sûrement pas eu les mêmes scores de ventes. Donc pour eux, c'est plutôt une bonne chose. Et ils ont annoncé qu'ils allaient donc cette fois augmenter leur capacité de production et qu'en ce moment ils travaillaient sur deux projets à la fois. Donc voilà, ils sont en train d'augmenter leur
projet. Parce que Soma, c'était quand même une belle tuerie. Et
vous en aviez parlé, vous, il y a quelques...
Et surtout un bon scénar, enfin, pour ce type de jeu, là, un bon scénar, une belle... utilisation de la frousse.
Et ça, moi, c'est Amnesia, ouais. Tous ces jeux qui ont vraiment un rapport très particulier à l'image, à l'environnement.
Amnesia, ça m'avait un peu terrorisé. Voilà. J'aurais voulu sur Amnesia. Mais bon, c'est. Moi, pour ma part, je suis allé jeudi. C'était jeudi après-midi au Novotel de Bagnolet. J'ai fait du tourisme, chers amis. Au Novotel de Bagnolet, jeudi, il y avait l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires d'Ubisoft. Pourquoi se déplacer à un truc comme ça? J'étais pas le seul à avoir fait le déplacement, pour le coup. C'était rigolo, en discutant avec le porte-parole d'Ubi, il disait c'est marrant, d'habitude on est 30. on était un peu plus nombreux, c'est juste que tout le monde attendait Vivendi. Donc Vivendi, on le sait, est monté dans le capital d'Ubisoft depuis octobre dernier. C'était assez impressionnant. On rappelle les chiffres. Ils ont annoncé 6,6% du capital d'Ubisoft le 14 octobre 2015, avant de passer la barre des 10% le 22 du même mois. Le 15%, c'est mi-février. Le 20% fin juin. Et là, aujourd'hui, ils sont à 22,8%. D'Ubisoft et sont de fait le premier actionnaire d'Ubisoft. Donc Vivendi est le premier actionnaire, mais pas l'actionnaire majoritaire, hein, évidemment. Et donc c'était quoi l'enjeu? C'est qu'on sait, hein, à la tête de Vivendi, c'est Vincent Bolloré. Et Vincent Bolloré est un habitué de ce qu'on appelle... Alors, Je suis désolé, j'ai dû apprendre hein, un vocabulaire un peu. Ce qu'on appelle la prise de contrôle rampante, c'est en fait de s'immiscer dans le conseil d'administration des entreprises en ayant aux alentours de 15-20% des parts, et à partir de là, de finir par prendre le contrôle sans même passer majoritaire, donc sans passer par une OPA ou ce genre de choses. Et donc là, c'était la grosse ambiance tendue, c'est est-ce que Vivendi va demander un siège au conseil d'administration d'Ubisoft ? Est-ce qu'il va l'obtenir ? Et enfin voilà, on ne savait pas ce qui allait se passer. On savait par contre qu'Ubisoft avait blindé de tous les côtés les votes, les actionnaires, etc. Il y avait un petit calcul qui avait été fait, je crois, par les Échos, qui disait que grosso modo, ils avaient sécurisé à peu près 42% des voix, sachant que la famille Guillemot n'est qu'à 13%. Hein. Enfin, ils ont 18% et des bananes des droits de vote. Mais
Et puis, dans les jours précédents, il y a eu pas mal d'opérations de com' de la part de Yves Guillemot, qui est allé dans les médias un peu voilà, défendre sa vision de l'entreprise.
Et donc, voilà, gros suspense. Alors, pour juste passer rapidement les détails techniques, Vivendi avait jusqu'au 4 septembre pour demander une résolution sur le fait d'avoir un siège au conseil d'administration. Ils ne l'ont pas fait, sauf que la loi française permet de demander des résolutions au moment de l'AG même. Donc, en fait, il y a eu une sorte de suspense qui a couru sur toute l'AG, parce qu'en fait, ils avaient jusqu'à la dernière seconde de l'AG pour demander une résolution. Ils ne l'ont pas fait, donc en fait, on s'est un peu déplacé pour rien. Hein. Voilà, et alors, j'ai découvert l'ambiance extraordinaire des assemblées générales d'actionnaires. Vous voyez les conférences de presse ?
Ouais.
Bah, c'est encore plus relou. C'est un truc où tu entends parler de machin consolidé, de soldes sociaux. Alors c'est assez marrant. Il y a eu une séance de questions-réponses donc avec les actionnaires, et donc il y a à ma connaissance 4 petits actionnaires qui sont intervenus. Alors c'était assez rigolo. Alors l'ambiance était à la limite du culte de la personnalité hein, pour Yves Guillemot, hein, avec formidable jeu de mots I believe. C'est un peu voilà sur les t-shirts. Hein, parce qu'en fait il y avait beaucoup de salariés d'Ubisoft qui étaient présents, parce que une des opérations c'est une ouverture du capital aux salariés qui a eu lieu fin juin. Maintenant les salariés ont entre 3 et 5% de la boîte, donc il y avait beaucoup de salariés qui étaient présents en tant qu'actionnaires. Et il y a eu des questions de petits porteurs. C'était assez marrant parce que eux étaient Vivendi, ils ont 20%, c'est pas forcément illogique qu'ils demandent un siège au conseil d'administration. Et en face, Yves Guillemot qui disait non.
Non, vous avez vu ce qu'il a fait à Canal+.
Non, mais c'était pas trop ça, parce qu'en fait, ils voulaient pas vraiment nommer les trucs. C'était assez rigolo parce qu'ils disaient il est important qu'un actionnaire reste un actionnaire. S'il n'est pas souhaitable que Vivendi vienne au board, c'est le terme pour le conseil d'administration, au board, parce que c'est aussi un concurrent et ça empêcherait la société d'être agile. Je cite.
Agile.
Parce qu'en fait, oui, c'est des mots qui reviennent, agile et indépendant. Voilà. Je pense qu'on enlève ces mots-là, l'AG, elle perd une heure, hein, facile. Et c'est marrant parce qu'il disait, oui, et puis il y a aussi la mauvaise réputation de certaines sociétés. Enfin, tu vois, il fallait vraiment pas insulter l'avenir. Hein,
comme on dit.
Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, voilà, pas de siège pour Vivendi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si Vivendi reste en état actuel, qui est aux alentours de 20%, on se rappelle qu'Electronic Arts est resté à 20% pendant 6 ans au capital d'Ubisoft. Si Vivendi reste au capital actuel, il lui faut attendre un an avant de redéposer, d'essayer d'avoir ce siège au conseil d'administration. L'alternative, c'est bien sûr tout ce que beaucoup à Ubisoft redoutent, c'est l'OPA. Sachant que cette OPA, parce que s'il continue à grignoter des parts sur le marché, s'il dépasse 30%, ils sont dans l'obligation légale de déclencher une OPA. Et donc, c'est là où il va y avoir un gros, gros, gros combat, parce que ça dépend de la prime à l'action qu'ils vont passer. Parce que les gros actionnaires d'Ubisoft, c'est quand même des fonds de pension. Donc, à partir d'un moment où si ça devient très intéressant, ils n'auront plus vraiment le choix. Donc voilà, c'est tout le suspense sur les mois à venir.
Voilà. Sinon, pas de siège, il reste debout.
Tu l'as, voilà, tu l'as préparé depuis hyper longtemps, celle-là, c'est très impressionnant. Merci.
Moi,
donc voilà, ça c'était l'AG d'Ubisoft. Rien ne bouge jusqu'à la prochaine manœuvre. Il y a juste Vivendi qui a sorti un communiqué. Ils n'ont rien dit, ils sont juste abstenus à toutes les résolutions. Ils n'ont rien dit, il y a juste eu un communiqué qui était titré sobrement « Vivendi est le premier actionnaire d'Ubisoft ». Genre, vous pouvez toujours essayer de nous mépriser, c'est quand même nous qui avons le maximum de parts. Donc voilà, c'est assez marrant, et puis en plus, ça se voit qu'ils ne parlent pas, ils n'échangent pas. Ils s'évitent complètement. Yves Guillemot n'a pas parlé à François Bizio, qui était le représentant de Vivendi présent sur place. Vincent Bolloré n'était pas là, hein, parce que ça, c'était vraiment tout ce que tout le monde attendait. Mais voilà. Donc, à voir l'année prochaine ou avant. En tout cas, c'est pas fini, cette histoire. Le com des coms de la semaine dernière. J'essaie de retrouver mes notes, parce que j'ai perdu mon com des coms au fin fond de... voilà. Le com des coms, on commence avec Killscore 2600. Alors oui, qui fait une première remarque pour une écoute uniquement audio, c'est une nouvelle saison et assez compliquée. Le son est très lointain. Je sais que les conditions d'enregistrement sont différentes, mais il faut vouloir s'accrocher. Ouais, alors en fait, moi j'ai un problème, c'est que je suis très très nul en écoute. Donc moi je trouve à mes oreilles que le podcast est écoutable. Alors j'ai l'impression que beaucoup, c'est pas le seul à avoir fait cette remarque. Donc s'il y a des spécialistes de l'audio ou de l'encodage, je sais pas quoi faire pour améliorer ça, mais on va peut-être essayer de travailler dans les semaines qui viennent pour que ça s'améliore. Et lui, il réagit aussi sur NBA 2K. Je suis obligé. Et attends, c'est pas le seul. J'ai pas pris tous les commentaires sur NBA 2K. On aurait pu faire. NBA. Ouais, sur NBA 2K, je ne pourrais commenter que le mode carrière puisque je n'ai fait qu'un seul match en mode normal. Avec NBA 2K 15, j'avais eu la révélation à la différence du foot et de ses 11 joueurs de champ où l'on peut passer de longues secondes sans voir le ballon. Contrôler un seul joueur dans un jeu de basket avec sa zone de jeu rétrécie et son nombre de joueurs plus limité permet d'offrir une expérience passionnante. Quel que soit le poste, on est directement intéressé par l'action. Cependant, il faut reconnaître que cela reste assez scolaire et Visual Concept, donc le développeur de NBA 2K, ne nous propose pas encore un vrai mode histoire où ici on jouerait par exemple un joueur européen découvrant les États-Unis, un nouveau style de jeu, là un jeune des quartiers chauds qui tente de se défaire de son passé, de son entourage toxique. Bref, un vrai background profond et travaillé. Le meilleur avec cette licence est encore à venir. Le détachement de ce mode de jeu en une franchise autonome et plus ambitieuse dans l'histoire comptée ne m'étonnerait pas. Et c'est vrai que pour l'instant, les modes histoire, moi j'aime bien celui-là qui est très léger en fait, qui est très orienté basket et tout ça. Je trouve assez agréable. Je me rappelle de c'était quoi cette série de box assez récente de Electronic Arts
Ah oui.
Knockout.
Non.
Non, c'est récent, tu dis.
Oui.
Je sais plus.
En fait, ils en avaient sorti un quelques années avec un mode histoire qui était assez intéressant.
Il y a
ce 4 ou 5 histoire. Ans, en fait. Ça va me revenir. Ben, en plus, j'adorais cette série, donc je ne me rappelle absolument plus le nom. Je crois que c'était le numéro 3 qui avait sorti un mode histoire, un mode scénario, qui, pour le coup, on commence en prison. Enfin, voilà, il y avait vraiment pas mal de choses. Mais j'espère effectivement que... De toute façon, je pense, NBA 20, il y aura un super mode histoire. Enfin, bon, bref. Suivant Lina Nounette qui dit... on retrouve enfin un silence en joue régulier et très complet, ce qui fait plaisir. À nous aussi. À nous aussi, quand même. En fait, elle dit, j'avais lâché Phoenix Wright dès le premier épisode. J'avais trouvé trop linéaire, mais je lui redonnerai peut-être une chance en reprenant Dual Destinies. Car en tout cas, vous m'avez bien vendu le titre. Donc, Dual Destinies, c'est le précédent.
Qui est, semble-t-il, d'après
tous les avis, en tout cas ici même, c'était peut-être le plus marquant du renouveau de Phoenix Wright. Et enfin, Corey San, nouveau commentateur ou nouvelle, je ne sais pas, des forums de Science en Joue, il nous précise, dans le segment consacré à Ricor, le mot orbe est utilisé au féminin. Je tiens à préciser qu'il faut en réalité dire un orbe. Et moi, je trouve ça important.
C'est bien de le préciser.
Ah, non. Ouais. Oui, voilà.
D'accord.
Tu vois, on apprend des choses.
Bah oui. C'est de la culture.
Exactement, le jeu vidéo, c'est culturel. Bon, on va pas tarder et on va commencer le programme de cette semaine avec quoi ? Avec Destiny, les seigneurs du fer.
Guardian, will you rise to this fight? And stand where the Iron Lords fell.
We'll be right back. Destiny, les seigneurs du fer, Bungie, aux commandes de cette série. Hein, maintenant, enfin, non, c'est... Est-ce que c'est un jeu avec des DLC? C'est pas vraiment encore une série. Il n'y a pas de Destiny 2, mais Destiny sorti en septembre 2014, donc il y a déjà deux ans, avec des premiers DLC, donc des premiers scénarios et tout ça. Il y a les ténèbres souterraines en décembre 2014, la maison des loups en mai 2015, et évidemment le roi des corrompus il y a tout juste un an, qui était là pour le coup une façon de relancer complètement le jeu avec énormément de contenu additionnel et là ils ont mis un an avant de sortir donc les Seigneurs du Fer nouveau contenu. Alors moi je dois avouer j'ai totalement lâché Destiny donc depuis deux ans hein, voilà j'ai un peu joué au début mais ça m'a pas vraiment convaincu. J'avais toujours du mal avec ce hub un peu bizarre, on repasse à la troisième personne, enfin bon bref. Mais toi, tu...
Moi, j'ai continué, je trouve que le roi des corrompus, c'était vraiment, il y avait vraiment un grand ajout quoi, dans ce...
Il y avait une très bonne histoire, semble-t-il, aussi, je m'en rappelle.
D'accord. À discuter. Il y avait vraiment des ajouts, il y avait un système d'arène qui était assez chouette. Grosso modo, alors moi j'ai repris le jeu donc pour pouvoir faire ces seigneurs du fer. Je trouve qu'il offre ces seigneurs du fer offrent un petit peu moins de contenu, c'est un peu plus léger en contenu que par rapport au roi des corrompus et ajoute moins de nouveautés. Il y a moins, voilà, c'est un peu plus, voilà, quelques quêtes, une mission principale en plus avec cinq quêtes.
Il y a pas. C'est une nouvelle campagne qu'on reprend en fait. Ça s'ajoute, ça s'imbrique.
Alors c'est un peu plus, je trouve qu'il est un peu plus. Moi, ça faisait un an que je n'avais pas touché, donc il a fallu que je restuffe mon personnage parce que voilà, il était tout chétif et malingre. donc voilà, il fallait le restuffer afin de pouvoir jouer au Seigneur du Fer. Donc j'ai refait au moins la moitié du roi des corrompus et c'était un vrai plaisir de retourner dans cet univers parce que la direction artistique est vraiment magnifique.
Mais ça, c'est la force de Bungie, de toute façon, depuis Halo, on le sait, ils ont une capacité comme ça à créer un univers visuel, à dépôt d'un univers scénaristique, un univers visuel assez impressionnant.
Alors, l'univers scénaristique, on est toujours un petit peu, je trouve que c'est toujours un petit peu embrouillé, je m'embrouille complètement dans ces différentes factions, et je trouve que le jeu manque vraiment de personnages, de personnages forts, marquants, d'identité, de personnages méchants, qui soient terribles, parce que même le roi des corrompus, mais il manque un peu de force dans les personnages et on s'embrouille un petit peu dans la lore comme on dit dans tout le background et puis il y a aussi ce sentiment que le jeu est pas il manque quelque chose en fait à ce Destiny. J'arrive pas à mettre le mot dessus. Ça me semble parfois un peu tout le jeu confus, où il manque vraiment aussi des explications pour les... parfois, il faut vraiment aller se... Non, je ne sortirai pas cette expression, mais... mais il faut... On n'est pas pris par la main par le jeu. Je trouve qu'il est parfois un peu...
Il manque une sorte de structure
narrative, mais aussi parfois d'explications pour quelqu'un qui n'aurait jamais fait... qui n'aurait pas d'expérience des MMORPG, dont Destiny s'en réclame plus ou moins. Par exemple, il faudrait tout simplement expliquer ce qu'est un raid. Voilà, parce que pour le joueur lambda, qui veut essayer de faire le raid des Seigneurs du Fer, il ne saura pas qu'il n'y a pas de matchmaking, qu'il va falloir qu'il trouve sans doute à l'extérieur, hors du jeu, sur différents forums, d'autres compagnons d'armes.
Il n'y a pas de matchmaking.
Non, pour les raids, non, il n'y a pas de matchmaking. Il y en a pour d'autres, pour ce qui s'appelle les assauts, il y en a. Mais sinon, non, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des parties où, effectivement, il n'y a pas de matchmaking. Des fois, on se retrouve seul. C'est un peu compliqué. Donc, c'est un petit peu ces réserves-là. D'autres réserves aussi sur la VF, moi, je le trouve de plus en plus raté. Mais alors, pas dans l'interprétation, en fait. Je trouve qu'il s'est mal joué. C'est joué comme si c'était un dessin animé, en fait. C'est un peu infantilisant. Et c'est vraiment un peu dommage parce que, du coup,
on perd un peu du côté,
parce qu'on a vraiment l'impression, à nouveau, de s'embarquer dans une épopée, spatiale, qui est vraiment bien. Et du coup, la VF, elle qui est bien, mais son interprétation, elle tire un peu vers le bas. Du coup, moi, je trouve que cette extension, elle rajoute rien, c'est-à-dire elle rajoute rien à Destiny, mais pour ceux qui n'auront pas du tout joué, là, je trouve qu'avec ces 4 DLC...
Mais parce qu'il y a une version où il y a tout.
Voilà.
Il y a une version en vente de Destiny avec tout.
Et là, je trouve que c'est pour le coup, ceux qui n'ont pas touché, ça vaut le coup. Ouais. Il y a du contenu.
On peut se lancer, ceux qui ont envie de découvrir, c'est vrai, un univers absolument énorme et ce côté multijoueur qui a été repris récemment. Parce que le vrai concurrent de Destiny aujourd'hui, c'est The Division, côté Ubisoft, où là aussi on attend des ajouts, des choses qui vont sans doute arriver dans les mois à venir, parce que c'est quand même là, ça devient un des vaisseaux amiraux d'Ubisoft, justement. Et c'est vrai que pour le coup, cette version avec tous les DLC, ça devient assez impressionnant.
Ouais. C'est, voilà, à conseiller pour ceux qui n'ont pas joué, après pour les fans à voir. Parce que c'est pas, disons qu'elle est dispensable, cette extension.
Là, Destiny, les Seigneurs du Fer, sur partout. Vous pouvez jouer où vous voulez. On joue où on veut.
Quand on veut.
C'est le moment de... Voilà. D'aborder le jeu qui a fait beaucoup parler, peut-être beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Hein. C'est le jeu du studio Variable State, c'est Virginia. Virginia, sorti sur partout là aussi, PS4, Xbox One, Windows, OS 10, c'est une dizaine d'euros, je crois. Comme ça, je fais des trucs techniques dès le début, comme ça, c'est plus à faire. Aux commandes de ce Virginia, Jonathan Bureau et Terry Kenny, donc, qui sont les fondateurs du studio Variable State, et puis le compositeur, dont on parlera aussi, hein, parce que c'est un aspect important de l'expérience, qui s'appelle Lyndon Holland. Virginia, je vais vous laisser parler. Je vais te laisser parler, Patrick, par exemple. Comment est-ce qu'on commence ? Comment est-ce qu'on aborde
un sujet complexe, Virginia. Alors, moi, je dirais que je suis quand même très partagé. Je suis très partagé. Ouais. D'un côté, je trouve qu'il y a une vraie réussite plastique dans le jeu. Je trouve qu'il y a une vraie réussite de graphique. Je trouve que c'est vraiment réussi, ce côté un peu low-tech avec des polygones qui sont assez... Oui, il y a un côté assez rétro, plutôt rigolo. Il y a une musique qui est très très bonne. Il y a toute cette construction d'un... Alors, c'est un peu... On va essayer de pas trop spoiler, parce que c'est vrai que le jeu se fait en deux heures.
Ça ressemble à quoi le début, déjà ? Voilà.
Alors, début, on croit s'embarquer dans un thriller assez classique, une enquête policière. Et puis, très, très vite, manette en main, on se rend compte qu'on est en train de basculer dans un univers très lynchien, on va dire. Enfin, il y a beaucoup de références à l'univers cinématographique de David Lynch, dans la façon de déstructurer l'espace, le temps, de perdre un petit peu ses repères pour le joueur.
Pour faire juste la base de synopsis, hein, le lancement du jeu, donc on incarne Anne Tarver, qui est tout juste une toute jeune agente du FBI qui vient de se faire d'obtenir son poste au FBI et qui se retrouve à enquêter sur la disparition d'un jeune homme dans la ville de Kingdom en compagnie de Maria Halperin, qui est une autre nana.
On va retrouver dans
toutes
son
les
bureau,
deux noires, donc on joue une femme noire qui enquête avec... Ça a son importance quand même, qui enquête avec une autre femme noire et qui vont enquêter sur la disparition d'un jeune homme dans une ville un peu... une ville un peu lambda.
Oui, avec une vraie... Enfin, il y a pas mal de... Moi, j'ai vu des clins d'œil à X-Files qui sont assez omniprésents en termes aussi bien de façon de filmer la nature ou même les bureaux, enfin, quand on va rejoindre justement l'autre agent, etc. Il y a plein de réminiscences comme ça de séries télé qu'on connaît bien.
Maria Halperin, on a un peu l'impression que c'est une paria à la façon de Fox Mulder. Elle a son bureau
au fond
du sous-sol. Là, c'est pour le coup, le clin d'œil est assez évident, effectivement. Mm-hmm.
Donc en fait, peu à peu, on va basculer dans une... Et c'est là où vraiment, moi, j'ai ressenti l'influence de Lynch, la sensation de vivre un, comme un cauchemar réveillé, en fait, avec des images un peu déstructurées, des, une narration qui se fragilise, se fragmente, exactement, à la David Lynch. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Inland Empire, qui est un de ses films, pour moi, les plus... Enfin, qui m'a vraiment secoué à l'époque. Donc on a ça... Alors, voilà, dans la réussite, pour moi, il y a donc cette réussite plastique, il y a cette réussite, ça, l'expérience dure 2 heures, c'est vraiment, pour moi, vraiment une expérience sensorielle, et il se passe énormément de choses à l'écran en 2 heures, mais aussi dans sa tête, hein, derrière la manette, on est devant un tel, comment dire, puzzle narratif qu'on travaille pas mal à essayer de comprendre, de le reconstituer, parce qu'il y a plusieurs plans de temporalité, enfin, on sent que tout est déstructuré, donc on travaille pas mal. Il y a des vrais moments poignants aussi. Enfin, moi, il y a des moments que j'ai trouvé poignants dans la mise en scène, vis-à-vis de certains personnages. On va pas trop spoiler parce que voilà, l'expérience fait 2 heures, donc c'est de laisser quand même des choses à découvrir. Et pour moi, c'est un vrai jeu qui va jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire. C'est un vrai flirt très très poussé avec le cinéma, avec la mise en scène cinématographique. Et là, il réussit sur ce plan-là, je trouve, vraiment à se rapprocher du ressenti qu'on a devant un film. Mais c'est là aussi où je trouve que le prix fort est à payer. C'est que finalement, est-ce que c'est encore un jeu vidéo ? Je trouve...
En termes de gameplay, il n'y a pas grand-chose à
faire. Il n'y a quasiment pas de gameplay. C'est-à-dire qu'on est parfois livré à soi-même dans les déplacements, mais on n'a quasiment rien à faire. On a très peu de choses... on n'a pas de choix à faire. Moi, c'est quand même quelque chose qui me pose un problème sur un jeu quand même d'aventure à la base, avec une narration. Mais on ne fait qu'avancer et actionner des choses qui sont déjà préconçues dans le jeu. Et en fait, pour moi, il est intéressant. C'est une expérience sensitive intéressante, mais qui, pour moi, place la vraie question: quel est le rôle du joueur, enfin plutôt du type derrière la manette, par rapport à un jeu vidéo ? Il est là pour quoi ? Est-ce qu'il est là pour prendre des choix ? Est-ce qu'il est là pour diriger l'action ? Ou est-ce qu'il est là juste pour
dérouler une
histoire qui est déjà écrite, où finalement il n'a qu'un rôle de prétexte pour faire avancer l'histoire.
Moi, je trouve ça, dans l'esprit, je trouve ça très proche de ce qu'on appelle les visual novels japonais. Quoi, je trouve ça vraiment assez proche.
Pour moi, on est complètement dans la lignée de la nouvelle narration du jeu vidéo qui a commencé, si on met une origine avec Telltale et Walking Dead, et qui s'est complexifié et affiné avec Firewatch ou avec Oxenfree en début d'année. On est complètement dans ce type de jeu. Moi, la question, est-ce que c'est un jeu vidéo ou pas, pour moi, elle me semble complètement anecdotique, parce que effectivement, c'est en termes d'interaction, en termes de choix, c'est pas énorme. En même temps, on sait très bien que les choix et les interactions proposées, par exemple, par un jeu Telltale ou par Firewatch ne sont que des choix cosmétiques, et que c'est justement ces choix sont là juste pour impliquer le joueur. Là, la difficulté dans Virginia, c'est qu'on n'a pas ce gimmick de choix, et c'est à nous-mêmes de nous impliquer. Après, moi, l'aspect jeu vidéo, il est là à partir du moment où on contrôle le personnage. On contrôle le point de vue. C'est un jeu à la première personne. On contrôle le point de vue, pas tout le temps, mais à partir du moment où on contrôle le point de vue, on fait avancer son personnage, on arrive à interagir avec des objets. Moi, c'est pas une question.
Ce terme de jeu vidéo englobe tellement d'expériences différentes aujourd'hui que, voilà, il est aussi réducteur. Et je pense aussi qu'avec l'évolution du jeu vidéo, la façon où justement il se transforme avec des expériences justement qui remettent un peu en question, il faut se préparer aussi, il faut être prêt à ce genre d'expérience qui, comme tu dis, déstabilise un petit peu nos habitudes de joueurs, où on est habitué à avoir un score. Là, il n'y a quasiment pas d'interface dans le jeu. Il n'y a pas d'interface, il n'y a pas de parole. C'est un des plus beaux aspects du jeu.
Je trouve qu'il n'y a pas de dialogue, c'est qu'on se laisse vraiment porter à la fois par la musique, par les situations dans lesquelles on se trouve. Et justement, cette absence de parole, ces personnages qui sont tous muets, je trouve que ça suscite une espèce de malaise au fur et à mesure, que je trouve très agréable, en fait.
Et après, en fait, moi, je trouve qu'il y a eu des bonnes prises de décision, de risque, de dire on va tenter le coup des ellipses. Alors, l'ellipse, elle marche très très bien au cinéma. Moi, j'ai eu beaucoup de mal dans le jeu, là.
Pourquoi ?
Moi, j'ai pas aimé.
Pour décrire un des passages où on le voit peut-être le Oui, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Mais un des passages, je crois, les plus surprenants, c'est le moment où on va rejoindre, ça arrive deux fois dans le jeu, le bureau de Maria Halperin, donc l'enquêtrice, la partenaire. En fait, on est dans un couloir, on avance dans le couloir, et là, paf, sans prévenir, on est dans un escalier.
Et qu'on commence à
descendre. On commence à descendre un escalier, bim, cut, on est dans le couloir en bas, et on arrive à la porte. Et donc, en fait, ces deux ellipses sont complètes, à ma connaissance, sont inédits, ces deux ellipses complètement inédites dans le jeu vidéo. Moi, je n'ai jamais connu ça, c'est-à-dire qu'il y a pas, on n'a pas de temps de chargement, de choses comme ça. On est vraiment, on continue à avancer.
J'ai cru un bug, moi, sur le premier. J'ai cru un bug. Ouais, aussi, mais qu'est-ce qui se passe
Et je trouve
c'est perturbant, c'est perturbant.
Très intéressant.
Moi, je trouve ça formidable. Très ça amène vraiment, moi, je trouve que ça interpelle vraiment à chaque fois le joueur, en lui disant, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Tu dois très très vite faire des associations d'idées, comprendre.
Et en même
comme,
temps,
comme le fait. Alors, un autre aspect que j'aime beaucoup, c'est que beaucoup de lieux, en fait, reviennent. C'est-à-dire,
il y a
des récurrences, il y a le snack bar, il y a effectivement cet escalier, il y a une grotte, il y a également un ascenseur. Et j'aime beaucoup cette récurrence des lieux qui reviennent, mais dans des autres situations. Je trouve ça formidable.
Il y avait un jeu qui avait utilisé un peu cette sortie Flight of Loving.
Qui est
cité comme référence, qui lui aussi jouait sur ces cuts qui était assez intéressant. Moi, il m'a rappelé aussi Sunset de Tale of Tales. Je ne sais pas si vous y avez joué, où on jouait une femme de ménage. On avait parlé avec Erwan des Un Rock, avec Erwan Higginen. Voilà, y a où ça jouait aussi sur la lenteur, sur. Enfin là, ça ne joue pas du tout sur la lenteur d'ailleurs, donc c'est pas du tout. Sur des interprétations, essayer d'interpréter ce qui se passe à l'écran. Et
ça tranche. C'est vrai que ça tranche avec nos habitudes de joueurs. C'est vrai que l'ellipse, on connaît très bien au cinéma. Dans le jeu vidéo, c'est quand même un cas de figure particulier où, en tant que joueur, on perd la main. On n'est plus du tout dans le mécanisme narratif, c'est-à-dire qu'on sent qu'on est complètement guidé. Et le problème, c'est que pour moi, là, c'est vraiment associé à un déroulement ultra linéaire, où on n'a pas de choix, on n'a pas de dialogue. Les dialogues, bon, ça, c'est plutôt une réussite de pas. Parce que tout passe dans les mouvements, dans les gestes, dans la gestuelle des personnages, et ça, c'est très bien fait. Mais encore une fois, moi, ce qui m'a. Voilà, c'est
moi, je trouve que c'est le choix, il laissait aux joueurs, justement, d'interpréter cette ou ces histoires qui se déroulent devant ses yeux. Je trouve que le choix, il est là. Les choix sont là, et je trouve qu'ils sont bien.
Même si. Moi, j'ai trouvé que c'était pas tellement un choix. C'est-à-dire que, en fait, là où j'ai trouvé intéressant, c'est que dans toute sa première partie, ce que j'ai trouvé le plus ludique finalement, c'est essayer de comprendre. Essayer de comprendre ce qui se passe.
Là,
c'est qu'en fait, on
peut au début.
On évolue dans une sorte de puzzle, et temporel, et spatial, et machin, où en plus, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas.
Il y a des choses à lire.
Il y a quelques petites choses à lire.
Qui quand même donnent de bonnes indications sur ce qui se passe.
Ça, puis le début est assez compréhensible.
Oui,
c'est relativement cartésien, malgré ses allers-retours. On cerne ce qui se passe, l'enquête.
Il y a plein d'éléments qui viennent rajouter.
Et puis un final.
Notamment des flashbacks, des choses qui se sont passées avant. Des éléments oniriques aussi qui s'insèrent là-dedans, où on se retrouve dans un univers, dans l'univers des rêves. Et là, ça commence à mélanger plein de choses. Moi, mon principal reproche que je ferais à Virginia, c'est que ces choses qui s'accumulent, elles s'accumulent de manière ininterrompue, mais raisonnable, pendant les trois quarts du jeu. C'est-à-dire, pendant les trois quarts du jeu, il y a des choses, des clins d'œil, des trucs qu'on arrive... Quand il y a un nouveau truc qui arrive, on arrive à peu près à le situer dans le puzzle du jeu. On arrive à peu près à comprendre. Il faut quand même se concentrer, mais on arrive à peu près à saisir le sens de la symbole, tel symbole, telle chose comme ça. Où est-ce que ça s'agence dans le puzzle, Virginia? Arrive le dernier tiers ou le dernier quart du jeu, et là, on est sur une sorte de feu d'artifice. Perd complètement le contrôle, d'ailleurs, quasiment le contrôle. Hein, le dernier quart, il y a très 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 peu d'interactions qui arrivent.
On va pas rentrer dans les détails, mais oui, il y a
à ce moment-là. Et là, il y a une sorte de, J'allais dire dégueulis, mais c'est pas. C'est peut-être un peu
non,
violent.
Mais en fait, non, feu d'artifice, c'était plus joli.
Mais en fait, ça suit le cheminement de pas mal de films de Lynch, justement. Où, pareil, on a un point de départ souvent à peu près cartésien.
Je trouve.
Et une perte dans le. Après,
moi, mon interprétation, c'est que là, les mecs, ils se sont un peu trop fait plaisir.
La fin est
vraiment. Ils se sont un peu trop fait plaisir. Ils ont fait un peu leur côté un peu lynchien, un peu machin. On va mettre des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il va falloir surinterpréter. Or, le problème, c'est qu'on est dans un jeu vidéo. En plus, ça va vite et tout ça. Donc, en fait, on ne nous laisse même pas le temps d'interpréter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette temporalité qui permettrait, comme dans un Mulholland Drive, par exemple, cette lenteur qui permettrait d'essayer de recomposer un peu en temps réel. D'autant que dans Mulholland Drive, on se gourre tous parce que personne n'arrive à refaire le puzzle en temps réel de ce film-là. Mais au moins, il est lent, il permet de au moins... À défaut de comprendre la structure narrative, de profiter d'une sorte de structure émotionnelle. C'est ça qui est fort chez Lynch. Et là, je trouve qu'il rate le coche sur la dernière partie du jeu, parce que moi, là, je n'ai pas du tout rentré dans la structure émotionnelle du truc, beaucoup plus dans la première partie, hein, que je trouve très, très touchante à certains endroits.
Oui, mais les jeux avec le miroir. Enfin, y a pas mal de scènes de miroir qui sont plutôt intéressantes par rapport au personnage qu'on incarne.
Je trouve... La première partie et la proposition initiale du jeu est super séduisante. Et moi, je trouve qu'il y a, que ce soit sur l'ellipse, que ce soit sur le fait que ce soit muet, que machin, il y a plein de choses qui sont brillantes. Mais après, je trouve qu'il y a une complaisance. Ils se sont dans cette espèce de truc assez obscur, et moi j'ai perdu, en fait, sur la fin,
malgré tout ce manque d'interactivité, parce qu'il est là, fait qu'il y a quand même un mur peu à peu qui se construit par rapport au personnage. On l'incarne, mais finalement il nous échappe, parce que on parle de Telltale avec les grosses ficelles de Telltale,
mais on passe tout le début du jeu à se demander aussi qui suis-je, quoi.
Enfin, bien sûr, on se pose pas mal de questions sur ce personnage.
Mais
il nous échappe. Moi, il m'a échappé, ce personnage. Je le trouvais intéressant, mais comme tu dis, vers la fin, ça s'emballe et il nous échappe. Ouais. Le scénario nous échappe complètement. On est plus. Moi, j'ai regardé à la fin, j'étais plus dedans. J'étais juste spectateur, j'étais plus du tout acteur.
C'est ça.
Je trouve que ça pose un problème par rapport à un jeu vidéo, malgré tout.
Moi, je trouve que ça m'a donné envie de le refaire, de le revoir.
Et sachant que tu ne pourras rien changer, a priori. Le jeu est tellement linéaire, je ne sais pas.
Peut-être qu'il y a des surprises.
Ça peut être intéressant d'avoir justement des déviations, des choix à tel ou tel moment. Ouais.
Je renvoie un petit peu à Variable State, parce que moi, la fin du jeu, s'ils avaient continué... Enfin, vu que c'est un jeu court, tous les éléments sont importants.
On est sur un fil pendant les trois quarts, et après, on bascule. Et c'est vrai que c'est un peu dommage.
J'ai trouvé ça... parce que je trouve vraiment le début très, très séduisant. Je leur en veux de ne pas avoir réussi à tenir ça jusqu'au bout.
Tu veux qu'il propose une solution clé en main
Non, parce que le début n'est pas clé en main. C'est de continuer, de garder cette espèce de truc sur un fil un petit peu qu'on a. Et je trouve, à un moment, sans aller dans les détails, mais tous ceux qui l'ont fait savent de quel moment je veux parler. À un moment, on perd tout. Il y a une séquence qui commence avec un fast-forward qui semble assez intéressant. Et après, c'est parti.
Je
trouve qu'ils ont un peu, voilà, ils se sont un peu écoutés eux-mêmes. Enfin voilà, ils se sont un peu fait plaisir sans
penser. Il y a un côté frustrant. Ouais,
c'est vrai que dans Firewatch, il y avait une dimension peut-être un peu surnaturelle et onirique, mais qui était beaucoup plus subtile.
Tu te sentais quand même aux commandes de
Firewatch là-dessus. Était beaucoup plus maîtrisé,
plus subtil là-dessus, quoi.
Donc c'est Virginia à jouer un peu sur tout ce que vous voulez. C'est une dizaine d'euros à ma connaissance. Et bon, en tout cas, je pense pour tous ceux qui s'intéressent au principe même de narration dans un jeu vidéo, c'est à jouer absolument comme il faut jouer à Oxenfree, comme il faut jouer à Firewatch, comme il faut avoir au moins fait un Telltale. Sur l'évolution de la narration, c'est assez important. C'est le moment tant attendu de retrouver Monsieur Fall. De retrouver Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv pour sa chronique jeux de société, jeux de plateau et tout ce qu'on aime bien. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose le grand frisson. Je vous propose de plongé dans le corps d'un enquêteur à l'époque victorienne, avec cette boîte-là qui répond du nom de Sherlock Holmes Détective Conseil. Et oui, c'est un jeu signé Gary Grady, Suzanne Goldberg et Jérôme Roper. C'est un jeu pour 1 à 8 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 90 minutes. Mais ceci ne veut pas dire grand-chose, quand je vais rentrer dans les détails, vous allez voir. C'est un jeu édité en français par les Space Cowboys. Les plus joueurs d'entre vous savent que Sherlock Holmes Détective Conseil est un jeu sorti pour la première fois en 1985. Cela ne nous rajeunit pas. C'est aussi un jeu qui a été réédité en français en 2011 par Istari. Mais là, cette boîte, c'est une nouvelle version. Pas seulement au niveau du boîtage, ils ont tout revu, les graphismes, l'esthétisme, mais aussi au niveau des enquêtes. À l'intérieur de cette boîte, il y a 10 nouvelles enquêtes inédites. C'est pour ça que ça pèse et qu'on peut faire de la muscu à l'intérieur, parce qu'il y a 10 livrets avec des enquêtes, et pas seulement. Donc je vous explique un petit peu le fonctionnement. Vous allez vous réunir avec des camarades, même si vous pouvez jouer tout seul, et vous allez prendre l'un des livrets et le lire entre vous. Il y a des indices, il y a un crime, et vous avez des éléments pour vous aider. Vous avez le journal de l'époque à laquelle s'est passé le crime, il y a 10 journaux à l'intérieur, vous avez le plan de Londres, vous avez le plan de West End, il y a un annuaire téléphonique pour trouver des témoins, vous déplacer, etc. Bref, vous allez mener une enquête et vous allez vous comparer à la fin, une fois que vous avez pensé avoir trouvé le coupable, au résultat de Sherlock Holmes. Oui, vous ne jouez pas Sherlock Holmes vous-même, vous vous confrontez à Sherlock Holmes. À la fin, vous comparez vos points et vous voyez si vous êtes un bon détective ou un très très mauvais détective. Et cela sur 10 aventures. Et je vous entends, mon cher Arwan, me dire « Ah ouais, mais bon, une fois que j'ai fait mon aventure, mon jeu ne me sert plus à rien. » Et là, je vous dis « Et avec les livres ?» Comment vous faites avec les livres ? Eh bien là, c'est pareil. Déjà, vous avez 10 aventures, 90 minutes par aventure. Ça vous fait des heures et des heures de jeu et de bonheur et de joie de découvrir qui est l'assassin malfaisant qui traîne dans les rues de Londres. 10 aventures. Et puis, une fois que vous les avez jouées, ben, le jeu, vous le posez sur une étagère. C'est très joli. Ou alors, vous le prêtez à des gens qui n'y ont pas joué. Voilà, vous faites plaisir à des gens autour de vous. Bref, ce jeu est une merveille. En 2011, quand Istari l'a édité, les gens se disaient, c'est étonnant de ressortir ce petit truc. Les gens jouent tout seuls, on joue tout seul des enquêtes, des livres. Et puis, en fait, ça fait un succès monstrueux. C'est pour ça qu'il ressort 10 nouvelles aventures ici, inédites, ce qui fait que ça va ravir tous les fans. Et moi, je vous invite, si vous ne connaissez pas le principe, à vous y plonger parce que c'est excellent comme sensation. Je rappelle le nom, Sherlock Holmes, Détective Conseil. Sous-titré celui-là, Jack l'Éventreur et Aventure à West End. C'est un jeu de Gary Grady, Suzanne Goldberg et Jérôme Roper. C'est pour 1 à 8 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 90 minutes. Chaque enquête, 90 minutes, ça vous coûtera 45€. Et en plus, vous pourrez faire de la muscu avec. Et ça, c'est absolument incroyable, mon cher Arwan. Je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. Si vous ne connaissez pas ces sites et que si vous êtes intéressé par les jeux de plateau, c'est l'adresse indispensable. On va enchaîner tout de suite avec une sorte de... comment on pourrait appeler ça ? D'open bar. D'open bar... avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut comme alcool, tout ce qu'on veut à bouffer. De toute façon, il y a un buffet, il y a un open bar, on va en ressortir le ventre plein, on n'aura plus faim. C'est un peu ça, mais avec des bagnoles, ça s'appelle Forza Horizon 3. Alors, du côté de Microsoft Studios, les bagnoles, on aime bien ça, hein, on aime bien ça. Il y a deux séries, enfin, il y a la même série avec deux versions, une année sur l'autre. De l'autre côté, du côté, on va dire, un peu sérieux, il y a Forza Motorsport, ils en sont au numéro 6, le dernier, c'était en 2015. Donc, en 2007, nous avons le droit à Forza Horizon, et là, on en est au 3. Et Forza Horizon, après le Colorado, après le sud de la France et l'Italie, il y a 2 ans, nous avons le droit à l'Australie et nous allons conquérir l'Australie parce que le principe de ces Forza Horizon, c'est l'open world et les belles bagnoles. En tout cas, le qualificatif belle est pour ceux qui aiment bien les bagnoles. Et en tout cas, ceux qui aiment bien les bagnoles seront servis parce qu'il y en a. Il y en a beaucoup. 350,
il y a beaucoup. Et combien de kilomètres de route, je ne sais pas, mais beaucoup.
Plein, c'est monstrueux. Plein, on va dire plein, mais plein. Mmh. Et surtout qu'il y a les routes, il y a ce qu'il y a entre les routes, les champs, les machins. De toute façon, on peut faire ce qu'on veut, on est en pure open world.
C'est un jeu fun. Enfin, moi, je suis pas un féru de jeu de bagnole, j'avoue que. Alors, celui-là, c'est vrai que déjà, il est super beau. Enfin, quand on le lance, il est bluffant. Mais bon, ça, on savait que les Forza, il y avait un vrai savoir-faire au niveau réalisation. Mais là, je trouve que, il est vraiment impressionnant graphiquement. Et on a envie de se dire, ça y est, ça c'est une killer app pour la console. Là, il y a un vrai jeu accessible, fun, qui est beau. Voilà, là c'est vraiment un jeu qui peut vraiment faire vendre l'Xbox One, parce qu'enfin, là, il y a un vrai jeu vraiment pour la console et le PC, parce qu'il sort aussi sur PC en même temps.
En crossplay. Et
je pense qu'il peut parler à peu près à tout le monde. Enfin voilà, moi je pense que les fans de bagnoles vont s'amuser à aller faire les petits réglages sur les voitures de sport reconnaissants. Et puis moi qui suis pas un spécialiste, je suis un inconsolable des test drive 2 sur Amiga ou voilà.
C'est garé.
Bon. Ben, en tout cas, voilà, on s'éclate immédiatement. Et ce côté monde ouvert fait qu'on voilà, on prend sa bagnole, on nous parle. Moi, on m'appelle Patrick dans le jeu.
On m'appelle Erwan. C'est le premier jeu.
C'est tout bête. Et ouais, mais c'est pareil.
Il y a quelqu'un qui lance le jeu. Alors Erwan.
Oui, moi, ça m'a fait pareil. C'est la classe, quoi.
Moi, je me suis fait appeler Mohamed.
C'est vrai, c'est ton pseudo dans le jeu. D'accord, ok.
Mais je suis sûr qu'il y avait Joël.
Bah, j'ai pas regardé.
Ah ouais.
D'accord.
Ouais, il y avait Erwan.
Mais en tout cas, voilà, on est lancé là-dedans tout de suite. C'est super beau. On a des voitures hallucinantes. C'est tout bête, mais moi j'aime bien. Je vous parlais de test drive. Moi, j'aime bien jouer en vue intérieure, avec le cockpit. Ouais, je sais. Je sais, c'est bizarre. Mais justement, il y a très peu de jeux qui permettent de le faire. Et celui-là, ça marche. On peut jouer en vue intérieure. Vraiment, c'est jouable. On peut tourner la tête, voir le cockpit, et c'est super jouable. On sent vraiment le grip des différents matériaux. C'est vrai qu'on roule un peu partout en Australie. Alors ça.
Ça, c'est agréable. Hein. Quand on passe du sable et on le gravier à la route, au bout des mains, on tâte la terre.
Et ça, c'est important sur un jeu comme ça.
Super bien le mode vibration.
Ouais, vibration, on sent vraiment les différentes matières sur lesquelles on a. Alors, on a plein de voitures, on a du 4x4, on a.
Du buggy.
Quelques heures, mais j'ai fait même pas 1% du jeu, tellement on sent qu'il y a une masse de choses. Il y a toujours des activités en route, c'est-à-dire qu'on est sur un monde ouvert. On roule, on nous invite sur. On a toujours 2-3 épreuves qu'on peut aller faire, enclencher pour alimenter le championnat en route. Encore une fois, c'est super beau, c'est super accessible. Je trouve que, bon, très vite sur certaines compétitions, on sent qu'il faut quand même avoir du skill. Il va falloir quand même prendre en main la voiture et...
Il y a des courses où ma cinquième place m'a suffi. Hein.
Très vite, au bout de quelques heures, on comprend que voilà, on revoit un petit peu à la baisse ses ambitions. Mais ce jeu, il emporte. Je trouve que vraiment, il a une dynamique. Ouais. Les musiques, il est super soigné en termes de musique, de mise en scène. Et il y a une pêche dans l'habillage.
Moi, mes réserves vont de ce côté. Alors, déjà, au début, j'étais ravi de vous retrouver.
Oui, mais on
s'est croisés en ligne.
Sans
être connecté. Même sans être connecté.
Les joueurs, je pense, de ses potes en ligne. On retrouve nos joueurs.
J'ai défoncé ta bagnole.
Mais on n'était pas connectés ensemble.
Voilà. Mais moi, mes réserves vont plutôt du côté. Le côté. Je vais pas dire ça. Le côté, alors je sais pas, est-ce que ça fait passer pour un vieux con? Si je dis jeuniste, c'est genre, c'est ce côté genre, allez vas-y, sur le côté, je trouve ça atroce quoi, c'est-à-dire vraiment, ce que j'aimais bien dans le dernier par exemple Rally, c'est que c'était Rally, je sais plus le jeu de Rally auquel on a joué, Dirt, ouais. Dirt Rally, j'aimais bien le côté justement... aseptisé, assette. Mais alors là, c'est genre, hey, give me five, tape-moi dans la main.
Ça, tu l'as dans Motorsport, à la limite.
Je trouve ça un peu insupportable, quoi. Genre, viens, pote, viens jouer avec nous. Ça me crispe, quoi, tout de suite.
Je suis d'accord que le contexte.
Non, je veux pas qu'on me parle comme ça, quoi. Je veux pas. Enfin, je me reconnais pas, alors que j'aime bien la conduite. C'est vrai que c'est très agréable de se balader dans ces environnements, mais me parle pas comme ça, s'il te plaît. Comme si j'avais 15 ans. Merci.
Ah oui. Peut-être que
voilà, c'est là qui m'agace un peu.
Mais ceci dit, je comprends parce que voilà, le contexte scénaristique du truc, c'est que tu joues un espèce de boss de festival. Ouais, enfin, tu joues le boss d'un festival, du festival Horizon, qui va d'un endroit à l'autre dans le monde et voilà, qui s'installe, qui s'arrête en Australie. Australie, pays où il n'y a pas de piétons, il n'y a pas de police.
On roule à droite, c'est ça. C'est inversé.
À gauche.
À gauche.
Ici, on roule à droite.
Du coup, voilà, ça demande un petit moment d'adaptation.
Ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils mettent un côté. Il n'y a pas de second. Enfin, moi, pourquoi pas faire un petit mode histoire, un peu prétexte, mais autant faire quelque chose d'un peu second degré, comme par exemple pour GTA, comment s'appelle le Saints Row, comme Saints Row et GTA, un côté un peu parodique. Ils auraient pu. Ils auraient pu. C'est pas secondaire, mais c'est pas secondaire. C'est l'habillage du jeu. C'est l'habillage du jeu. Voilà, mais tu es sollicité, tu regardes les paysages, tu es sollicité, oublie pas, je suis là. C'est un peu insupportable, quoi, cette espèce de Jiminy Cricket de 14 ans.
Ah bah, ça m'a pas fait sortir du jeu, pas à ce point-là.
Ceci dit, moi, ce que je retiens en tout cas de ce Horizon 3 et des autres Horizons, je me souviens plus très bien du 1, mais ça m'avait bien plu déjà dans le 2. C'est que je trouve que c'est l'utilisation du système open world dans les jeux de bagnole, c'est quand même la licence qui sait s'en sortir avec ça. C'est-à-dire que qui sait, il y a des courses qui arrivent à la volée, c'est-à-dire que tu croises d'autres personnes, tu fais un coup de klaxon, elles commencent à te suivre, tu commences à faire un convoi. Au bout d'un moment, quand vous êtes assez dans le convoi, eh ben on fait une course de convoi sur le moment. Là, voilà, il fait le premier qui arrive là-bas à gagner. Ben, il y a une sorte de dynamisme comme ça dans les modes de jeu qui s'alternent. Il y a un moment, il y a des radars. Les radars, alors c'est pas du tout pour t'arrêter, c'est pour faire le plus haut score, aller le plus vite possible.
Ouais, puis il y a des scores surtout sur le dérapage. Il y a,
tu gagnes des points d'expérience, du pognon partout.
Si tu rates
complètement un truc et que tu t'en plafonnes une autre voiture, tu gagnes de l'expérience. Oh là là, bonus carambolage.
En fait, rien n'est grave.
Rien n'est grave.
On a l'impression d'un parc d'attractions, en fait. C'est un parc d'attractions où on arrive.
Ils arrivent à se servir de cet open world. Moi, je me souviens quand j'avais beaucoup regretté, je l'avais dit ici à l'époque, ça fait longtemps maintenant, mais quand la série Burnout avait essayé de se mettre avec Paradise, avait essayé de se mettre à l'open world, j'avais détesté. J'avais trouvé que ça ruinait un peu ce qui faisait le sel d'un burn-out. Mais je trouve que là, voilà, ils arrivent à nous emporter, à mettre tellement de trucs, c'est tellement immense aussi, parce qu'il y a plein de paysages, il y a tous les paysages de l'Australie, et il y en a beaucoup.
Le désert, la plage, les forêts.
Et puis il y a ce côté de pouvoir observer les voitures, enfin, c'est hallucinant, quand on récupère une voiture qu'on achète, on tourne autour, il y a un côté, on sent qu'il y a une adoration. C'est vraiment l'époque, il y a une manière,
tu tournes autour de la voiture, à un moment j'ai... Ah oui, j'ouvre la porte, rentrer dans la voiture, machin.
Côté passager, ouais. C'est assez gênant.
Il y a des gens qui font ça.
Rappelez-vous Crash, Cronenberg, le pouvoir érotique de la bagnole.
Ouais, ouais, c'est clair.
On est vraiment dans une sorte de too much. Qui est assumé de bout en bout.
Moi, j'ai eu l'impression, en jouant, sans trop rentrer dans les réglages, je ne me suis pas amusé à tout ça, mais j'ai eu l'impression que vous avez vraiment trouvé un bon mix entre l'arcade et le réalisme. Enfin, on sent sur les courses qu'on arrive à... C'est à la fois simple, ce n'est pas très compliqué sur le gameplay, ouais, mais en même temps, il y a quand même une courbe de difficulté qui se met assez vite
mais
en place.
Mais il y a un bon mix. Qui utilise bien le drift, enfin, qui utilise bien le dérapage. Moi, j'aime bien.
Et puis, il y a plein de choses. En pleine course, parce qu'il peut pleuvoir. Donc, d'un seul coup, on est obligé de changer sa façon de piloter. Enfin, il se passe plein de choses.
Franchement, bien joué sur Forza Horizon.
Il est impressionnant ce jeu, vraiment.
Ils font nettement mieux que le dernier Need for Speed, quoi, qui était justement en question de convivialité, ils font beaucoup mieux. Puis, bon. Enfin bref, voilà. Non mais c'est pas mal, c'est bien pour les...
En dehors de l'habillage, donc
en dehors de ça, c'est chouette. Quoi.
Ouais. Et après, les voitures ne se cassent pas, contrairement à Dirt Rally. Hein, voilà, on ne perd pas un phare au bout de la première minute de course.
Et on n'a pas, pas de copilote.
Donc Forza Horizon en crossplay, donc on en achète un, on peut jouer sur les deux plateformes,
ça se met
donc
en place,
PC
ça, ça y est,
ouais. Et Xbox One, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui ont un PC. Et une Xbox One. Enfin voilà, il faut avoir les deux. On va terminer avec Attack of Titans, Wings of Freedom. Attack of Titans, Wings of Freedom, c'est l'adaptation du manga de Hajime Isayama, donc débuté en 2009, et aussi, peut-être même surtout, en termes de visuel, de la série de Tetsuro Araki, qui est disponible, hein, notamment sur Netflix, si vous voulez aller la voir. Donc il y a pour l'instant une saison, la deuxième saison arrive en 2017, tout le monde est impatient. Et quoi ? Ah oui, parce que voilà, et c'est l'occasion. Peut-être c'est un peu violent pour ceux qui vont découvrir le jeu tout de suite. Hein. Parce qu'il faut s'adapter. Voilà. C'est un univers un peu spécial, voilà. Joël.
Oui, il vaut peut-être mieux voilà, Patrick se l'est pris en pleine face.
Ah, tu m'as voilà. essayé le jeu, voilà. Je l'ai essayé, c'est vrai que je ne connaissais, je fais mon mea culpa, je ne connaissais pas du tout voilà. la série, juste de nom, mmh. je connais la réputation, mais j'ai tout découvert d'un coup.
Ouais, c'est peut-être un peu dur.
C'est un peu violent.
Il vaut mieux...
Je crois que j'ai pris goût quand même.
Ouais, t'as pris goût.
L'humanité est donc recluse au sein d'énormes remparts qui les protègent de titans, donc des sortes d'humanoïdes gigantesques, asexués et un peu carnivores, enfin, qui mangent les humains. Voilà. Et qui ne les digèrent pas, voilà. pour ceux qui suivent ça.
Et globalement, outé Attack on Titans, Wings of Freedom, reprend très fidèlement le scénario de la première saison. Donc autour de ces trois, il y a environ dix personnages débloqués.
Misaka et Armin.
Voilà, tout autour de ces personnages. Et donc ces personnages, il faut le savoir, en fait, pour ceux qui n'auraient pas vu la série, ils se battent contre ces titans grâce à ce que j'appelle des manœuvres tridimensionnelles. En gros, ils ont des cordes et des grappins sur lesquels voilà, ils vont s'accrocher aux arbres, aux maisons. Donc ils vont tourner autour des titans, essayer de les abattre à coups de lame, de les couper, de faire en sorte qu'ils se prennent dans la nuque plein de coups de lame et qu'ils trébuchent, qu'ils meurent. Et moi, globalement, je trouve que le jeu est très agréable pour ceux qui connaissent. Alors, moi, j'ai regardé la première saison, j'adore cet animé. Donc, très fidèle. Je trouve que la sensation d'être justement de. Alors, les jeux de grappins, il y a des grappins, il y a déjà eu. Il y a eu Batman, il y a Just Cause. Mais là, je trouve que c'est aussi bien fait. On sent bien, on a vraiment l'impression de se balancer en l'air comme un Spider-Man. Les côtés stratégiques pour tourner, le côté stratégique est plutôt bien mis en place. On essaie de tourner autour des titans pour bien justement insérer ses coups. On a des accessoires comme du gaz.
Pour couper les membres peu à peu pour
que c'est dégueulasse.
Ouais, mais c'est une des méthodes quand même.
D'accord, tu peux faire ça.
C'est une technique.
Quand t'es classe et quand t'es aussi fort que le caporal Levi, tu vas directement à la nuque.
Voilà.
Moi, j'ai commencé par couper les membres peu à peu.
C'est un peu du travail de sagouin, hein, quand même. Hein. Je ne veux pas dire.
Ah, mais c'est impressionnant.
Juste ma petite seule réserve sur le jeu, c'est que c'est un jeu japonais, fait par des japonais. Et je trouve qu'il tire un peu trop du côté des Dynasty Warriors.
C'est le studio qui développe les Dynasty Warriors, justement.
C'est possible.
Les Dynasty Warriors, le Hyrule Warriors.
Du coup, je trouve que le
Omega
jeu.
Force, noté,
voilà, des fois, le jeu est un peu répétitif.
C'est le savoir-faire du studio, justement.
Voilà, la répétition. Voilà.
Avec plusieurs ennemis, etc.
Voilà. Du coup, toi
Moi, j'ai découvert tout ça d'un coup, sur le conseil de Joël. Donc,
quand tu découvres l'animé, beaucoup... tu prends quand même une claque. Hein,
parce que c'est vrai que c'est un univers avec une vraie look, des vrais partis pris. Donc voilà, j'ai tout pris d'un coup, c'était beaucoup d'informations en même temps. Donc non, mais l'univers est assez scotchant. D'ailleurs, moi, ça m'a donné envie de me plonger dans la série, vraiment. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un cachet. Moi, j'étais surpris par le côté gore du jeu, quoi. Enfin, c'est comme je disais, on coupe les membres des géants pour les faire tomber, on les déchire. Alors, je sais qu'on peut régler la violence à l'écran, donc moi, je l'ai mis au maximum, évidemment. Et bon, l'écran était tout rouge. Mais bon, ils y vont à fond, et ça, c'est plutôt pas mal, c'est de ne pas avoir trop atténué. Au contraire, je trouve qu'il assume complètement, visiblement, le côté gore, je ne sais pas si on l'a est bien foutu. Moi, j'ai bien aimé le côté la gestion de la physique. Et le ressenti du gigantisme des titans, on le ressent vraiment.
Moi, je trouve qu'il aurait pu être mieux fait. Hein.
J'ai trouvé que justement, quand on était avec ces harnais qui nous propulsent, on passe vraiment entre les jambes des monstres, on a plusieurs souvent autour de nous, et on a vraiment cette sensation de gigantisme autour de nous. Après, l'open world est plutôt bien fichu, même s'il est un peu vide. Je trouve que même s'il y a des missions secondaires, bon, ça manque un petit peu de choses autour. Mais sinon, je trouve qu'il y a pas mal de sensations de... Enfin, les combats sont hyper violents, quoi. Ouais. En tout cas, ça donnait vraiment envie de découvrir la série. Ouais.
Attack of Titans, donc, et la série... on dit éponyme, non, je déteste éponyme. En plus, à chaque fois qu'on utilise éponyme, on se plante.
C'est bien fichu, tu l'as pas précisé, sur le côté de loquer les cibles, parce que c'est important, on a souvent plusieurs cibles en même temps, et c'est vrai qu'il y a un bon jeu avec les armes, etc. J'ai trouvé que c'était assez prenant. Ouais.
Puis moi, j'attends la saison 2, quand même. Parce que je trouve que la saison 1 se termine un peu brutalement. Bref.
Ah, attention, il y a du spoil.
Voilà, donc c'est fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël?
Alors, je viens de terminer la saison 2 de Narcos.
que j'ai trouvé très bien, peut-être un petit peu inférieur à la précédente, mais ça m'a beaucoup plu. Je ne sais pas si vous l'avez suivi.
Non, j'ai pas vu la saison.
Regardez, moi, c'est vraiment bien. Et je viens de finir un livre qui, je trouve, excellent. C'est un essai qui s'appelle « Sapiens, une brève histoire de l'humanité ». Je l'ai lu en anglais, mais ça a été publié en français chez Albin Michel. Ça a été écrit par un intellectuel israélien qui s'appelle Harari. Et c'est passionnant. C'est-à-dire, en fait, il prend vraiment l'homme comme une espèce, donc l'Homo sapiens. Il faut savoir qu'au début, il n'y avait pas que l'Homo sapiens, il y avait aussi Néandertal notamment, et il y en avait encore 4 autres. Donc voilà, je ne les ai pas sous. Voilà. Donc finalement, l'Homo sapiens, voilà, il n'a pas zigouillé ses confrères. Bon, il y a eu des petits accrochages, et puis pas seulement des accrochages, mais aussi des amourettes, tout ça. Mais donc aujourd'hui, il ne reste que l'Homo sapiens, et je trouve que Harari arrive à mélanger l'histoire, la sociologie et la biologie pour raconter ce que c'est qu'aujourd'hui notre espèce humaine.
Quelle espèce?
Il met vraiment plein d'interrogations son livre est passionnant, il interpelle sur même plein de sujets, aussi bien, je sais pas, voilà, qu'est-ce que l'argent, pour lui, il s'agit juste, voilà, d'une fiction imaginée par les gens, voilà, il parle aussi de la révolution, mais ça me passionne, c'est un livre passionnant, il parle aussi de la révolution agricole, disant que ça a été sans doute une des pires catastrophes alors pourquoi, mais ça je vous le dis pas, voilà, comme ça vous irez voir le livre, ça a été une des pires catastrophes pour l'histoire de l'humanité, la révolution agricole. Mais voilà, je ne dis pas pourquoi.
D'accord.
Voilà,
vous allez dire.
Je suis allé au cinéma, j'ai vu le dernier Xavier Dolan et que j'ai beaucoup aimé, juste La fin du monde. Casting impeccable, c'est une pièce de théâtre à la base. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, puis toujours la musique, très très bon, vraiment.
Et moi, j'ai enfin, avec beaucoup de retard, regardé la saison 1 de Jessica Jones sur Netflix, donc dans l'univers de Daredevil. Bien, ouais. Et franchement, j'en avais entendu des choses très mitigées. Ouais, et j'ai beaucoup aimé. Mmh. En fait, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, j'attends Luke Cage qui va arriver là, Luke Cage. Parce que Luke Cage est l'un des héros de Jessica Jones. Il est déjà présent. Et franchement, voilà, j'aime bien c'est le côté Marvel qu'ils sont en train de faire avec Netflix, avec Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage. Normalement, Iron Fist qui doit arriver aussi un peu plus loin. Donc voilà, c'était très bien. Eh bien, merci d'être là pour Science en Joue. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur No Life, sur Libération et sur les internets.